RFI.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Comme chaque mois, la parole est à ceux qui veulent entreprendre sur le continent africain. Start-upers de tout pays, si vous êtes jeune diplômé,
unissez-vous,
un peu plus expérimenté aussi, bien sûr, hein, ceux qui ont quelques années de plus. Si vous avez un projet dans le domaine des services, de l'agroalimentaire, de l'énergie ou encore dans le domaine culturel, social, c'est le moment de nous contacter. Dans le studio, ça y est, vous l'avez déjà entendu, on ne peut rien vous cacher, c'est le retour du coach. Bonjour Didier Akouété.
Bonjour Emmanuel Bastide.
Directeur général d'Afrique Search, société de conseil en ressources humaines. Vous vous mettez à la disposition des auditeurs qui ont des idées pour leur continent, mais qui ne savent pas toujours soit comment les concrétiser ou encore des voisins qui ont déjà et des voisines qui ont déjà démarré leur entreprise mais qui butent sur de très nombreuses difficultés. Alors de votre côté, les voisins et les voisines, vous nous expliquez surtout de façon très synthétique votre business. 33 1 84 22 71 71. Pour ceux qui ne sont pas encore prêts à nous expliquer ça mais qui voudraient bien passer dans l'émission le mois prochain, on a une adresse mail pour nous envoyer un business plan. 7milliards@rfi.fr. Et Didier, de votre côté, vous nous dites vraiment ce que vous pensez des projets qui passent chez 7 milliards, des voisins, 7 milliards de voisins.
J'allais dire non. Sans langue de bois, évidemment.
Dans le rendez-vous des JPAG, jeune patron
de l'Afrique qui gagne.
Exactement. Didier Akouété, vous êtes avec nous. C'est parti pour une heure d'émission.
7 milliards de voisins.
Il y a des talents sur lesquels moi je parie.
Vraiment, l'Afrique regorge de talents.
Didier Akouété, ce sont cette année les 20 ans d'Afrique Talent.
Oui, des cheveux blancs, hein, vous vous rendez compte, Emmanuel?
Oui, comme vous n'en avez plus, c'est simple.
Il n'y a plus de cheveux blancs, c'est vrai.
Afrique Talent, c'est le rendez-vous d'Afrique Search. Afrique Search a déjà fêté ses 20 ans.
C'est vrai, il y a 3 ans. Ouais. Et cette année, c'est les 20 ans du salon de recrutement Afrique Talent, qui a été créé en 1999, il y a déjà donc 20 ans.
Vous étiez les premiers à l'époque?
Nous étions un peu les pionniers à l'époque, et puis on a fait des petits en Afrique, puisque ça a lieu dans plusieurs capitales africaines. Et donc on se retrouvera à Paris le 26 avril cette année pour fêter 20 ans. Et on compte sur votre présence, évidemment,
bien
Emmanuel.
Bien sûr, on passera Didier Akouété, c'est
Dubrac.
Bien noté. En 20 ans, qu'est-ce qui a évolué dans ce salon Afrique Talent de recrutement?
Alors, plusieurs choses. Alors, au début, les entreprises voulaient recruter essentiellement à partir de Paris. Et avec les années et l'offre de compétences sur le continent africain, les entreprises ont du coup eu le choix d'aller recruter directement des candidats en Afrique ou depuis Paris, ce qui nous a permis justement de développer les salons sur le continent. Deuxième chose, c'est que les candidats sont devenus un peu plus exigeants aussi avec le temps, essayant de trouver l'offre, entre guillemets, avec les avantages les plus significatifs. Mmh. Donc ils sont un peu plus exigeants par rapport aux postes qui sont proposés. Et puis troisièmement, le marché de l'emploi lui-même a tellement évolué avec tellement de compétences nouvelles qui arrivent, que le forum est devenu aussi une sorte de rendez-vous pour échanger sur l'avenir des compétences, les bassins d'emploi, les pratiques salariales. Et c'est vrai, les ressources humaines ont quand même beaucoup évolué sur le continent en 20 ans. Donc le salon permet de donner également un petit peu cet aperçu des dynamiques de gestion de ressources humaines en Afrique.
Des ressources humaines africaines, hein, parfois formées à l'extérieur du continent, mais pas forcément en tout cas. Rendez-vous 26 avril, Paris, La Défense, 20e anniversaire d'Afrique Talent. Bon anniversaire.
Merci Emmanuel.
À côté. Allez, on démarre avec un premier projet. Nous donnons la parole au 33 1 84 22 71 71 à un voisin qui est à N'Djamena au Tchad. Bonjour Ali.
Oui, bonjour Emmanuel.
Ali, vous êtes le coach est à côté de moi, vous pouvez le saluer aussi, hein, il vaut mieux. Hein.
Oui, bonjour.
Si vous ne voulez pas passer un sale quart d'heure, Ali, il vaut mieux me saluer. Bonjour Ali.
Non, c'est bonne ambiance, bonjour, hein. Bonjour. Je vous rassure Ali. Alors Ali, votre parcours, juste en quelques mots, intéressant, master 2 en commerce et management des affaires internationales de l'université de Lille 1. Vous avez travaillé plusieurs années, puisque vous avez 30 ans, dans le développement des startups en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique. Vous avez travaillé notamment dans une startup à Dubaï et évidemment, ça vous a donné des idées. C'est le problème, hein. Les accompagnateurs de start-up, ils finissent toujours mal en start-upers eux-mêmes. Bienvenue dans la galère. Vous avez créé, il y a un peu plus d'un an, Courant Jabot, c'est comme ça qu'on dit?
C'est bien ça, Courant Jabot.
Ouais. Alors Courant Jabot, c'est une entreprise qui commercialise des kits solaires. Courant Jabot, en arabe tchadien, ça veut dire ils ont ramené l'électricité, hein, c'est ça?
Effectivement, ils ont ramené l'électricité. Donc pour tout tchadien, c'est là avait dit quelque chose quand même.
Exactement. Alors ces kits solaires, c'est un système assez classique que beaucoup de nos auditeurs voisins, voisines sur le continent africain connaissent maintenant. Hein. C'est quoi comme puissance? Une petite puissance, hein?
C'est des petites capacités en fait. Nous on propose des solutions d'éclairage qui ont des capacités de 4,5 watts actuellement, ce qu'on propose. Donc ces kits solaires permettent juste en fait des solutions d'éclairage, donc 3-4 chambres, et aussi la possibilité de charger, de pouvoir charger téléphone portable. Donc l'idée c'est de pallier donc à des alternatives comme des packs kérosène ou des bougies ou des lampes à piles de basse qualité.
Ouais. Donc ça s'installe sur le toit de la maison. Comment ça fonctionne? C'est un. Alors vous les commandez, vous les importez de Chine?
Effectivement, nous on travaille avec un partenaire américain qui ont quand même leur unité de production basée en Chine. Mmh. On travaille avec ceux-là et du coup nous on finance les kits. Ce que nous on propose c'est du leasing, c'est ce qu'on appelle en finance du leasing. Donc c'est-à-dire on propose donc des locations avec option d'achat.
Donc, on paye tous les mois pour son kit solaire, pour avoir de l'électricité. Et au bout de combien de mois, on devient propriétaire du kit solaire?
Là, actuellement, au bout de 6 mois, c'est qu'on propose.
Les tarifs, à peu près, c'est quoi les tarifs moyens de la plupart de vos clients?
Alors, les tarifs moyens, actuellement, c'est qu'on propose, on a un produit d'entrée de gamme qui est de 6 francs. Et les plus élevés, les plus coûtés, ça coûte 60 000 francs, à peu près 100 euros.
C'est d'accord. Ça veut dire clairement, vous vous adressez à une cible de clientèle modeste. Il faut savoir que le Tchad, c'est un des pays qui a l'un des plus faibles taux d'électrification en Afrique. Hein.
Effectivement, donc bien que les indicateurs ont évolué un petit peu depuis la dernière donnée de la Banque mondiale, mais aujourd'hui le taux est actuellement, l'électrification est de 8,8%, ça reste quand même un décalage de 10%, plus de 90% de la population n'ont pas accès à l'électricité, et la majorité quand même, ça représente les familles à modeste revenu.
Oui. Comment vous vous positionnez sur un marché où on a déjà des grands groupes qui sont largement présents? Je pense aux kits solaires, aux lampes solaires du groupe Total, par exemple. Il y a de la place pour un opérateur local comme vous?
Effectivement, il y en a de la place parce que le marché est tellement vaste et un seul opérateur ne peut pas le couvrir. Ça peut encore le marché acquérir d'autres, quand même, d'autres entreprises, d'autres prestataires de services. Vous savez quand même que c'est plus de 90% de la population qui n'ont pas accès à l'électricité. Nous, c'est ce qui nous différencie par rapport aux autres. On propose en fait des kits solaires pour des familles à modeste revenu, donc avec un paiement échelonné, donc on est les premiers à les faire. Avec d'autres groupes, il faut acheter en espèces et beaucoup n'ont pas cette capacité-là. Et nous, on va directement à l'encontre de ces clients-là.
Et on paye par mobile banking, hein, c'est ça, avec son téléphone?
Effectivement, on a des partenaires qui sont en fait les deux opérateurs qui sont chat actuellement. Donc, on travaille avec Tigo et avec Airtel. Donc, ce sont des paiements électroniques à travers son téléphone portable. Donc, vous payez donc des montants, on vous envoie un code. Et ce code est valide que pour la durée en fait de votre paiement. Après ça, ça arrête dans un système donc de blocage automatique.
Ah si, c'est ça. Si un client arrête de payer, le système se bloque.
Le système se bloque et si le système reste bloqué pendant 2 mois, donc là, on a un contrat quand même signé d'avance qui nous permet de récupérer les kits.
Pour le moment, vous touchez combien de ménages tchadiens?
Alors, pour le moment, depuis qu'on a commencé avec la phase pilote et tout, on a touché à peu près 300 personnes. Et on vient juste de lancer un peu agressif. On vient de faire le lancement officiel hier de notre point de discussion à Droubali, qui est à peu près à 100 km de Niamena. Et des familles, des personnes touchées indirectement, à peu près 1000 personnes. Voilà.
Parce que vous ne visez pas que les ménages modestes des villes, mais également des zones rurales. Alors, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face à l'heure actuelle et sur lesquelles vous aimeriez bien avoir les conseils du coach qui est à côté dans le studio, Didier à côté?
Donc les difficultés qu'on fait face actuellement, c'est les difficultés déjà des financements comme toute start-up. Nous, on a commencé nos activités à peu près une année et demie, mais on a commencé à discuter avec certains investisseurs et on a l'impression qu'ils comprennent vraiment ce qu'on leur dit. On a un problème de compréhension. Parce que nous, actuellement, là où on est, on a déjà lancé en fait la pilote, on a déjà testé les marchés, les produits marchent. Donc on veut quand même un financement assez conséquent pour couvrir le territoire, pour couvrir le Tchad, éventuellement aller dans d'autres pays. Et ce qu'ils nous proposent, c'est des fonds de massage, donc c'est les fonds de départ.
Donc, c'est pas, et le fonds de départ, vous l'avez déjà mis au départ, vous avez mis des fonds propres. Hein. Vous êtes une équipe de 10 personnes, il y a une équipe dirigeante de 5 personnes, et à plusieurs, vous avez mis 5 000 euros. Et là, maintenant, ce que vous recherchez, c'est beaucoup plus.
Oui, effectivement, c'est beaucoup plus. On a aussi remporté quelques concours qui nous ont permis quand même de gagner aussi 20 000 euros. Donc, on a lancé dans l'activité. On a, donc, actuellement, on n'a pas besoin, par exemple, de 30 000 euros, 50 000 euros. En fait, de 10 000 euros ou de 20 000 euros, ce n'est pas vraiment intéressant. Ou 50 000 euros. Mais c'est ce que les gens nous posent. Et là, on trouve peut-être que là, ma question s'adresse au coach Didier. Peut-être que à quel moment il faut parler aux investisseurs et qui sont investisseurs? Est-ce qu'on est assez tôt? Il faut aller peut-être. Voilà, la question reste posée.
Ouais, parce que là, en fait, vous, pour parler clairement, vous cherchez à lever 300 000 euros, plus de 300 000 euros. Hein. Donc évidemment, on ne joue pas dans la même cour et vous estimez qu'au bout d'un an et demi, vous avez de quoi montrer. Didier à côté.
Oui, on a monté. Ouais.
Ali, qu'est-ce que vous réalisez comme chiffre d'affaires aujourd'hui à peu près?
Actuellement, les chiffres d'affaires qu'on a pour la phase pilote qu'on a réalisé, c'était juste ça, c'est pour tester les marchés. Là, ça reste à peu près de 6 millions d'euros, à 6 millions de CFA. Actuellement, on est, voilà, actuellement,
on est à moins de 10 000 euros. Oui, voilà. Effectivement. En fait, il n'y a pas de moment, on va dire, juste pour faire une levée de fonds. Il y a effectivement, comme vous avez vécu dans cet univers, des startups qui, dès le début, même sans phase, entre guillemets, réellement pilote, arrivent à lever des ressources parce qu'on croit beaucoup au projet et on sent que son développement peut être incrémental. Et là, la phase pilote que vous avez, c'est vrai, 10 000 euros, ce n'est pas significatif, mais il y a un potentiel de marché. Donc, s'il y a un potentiel de marché et que vous pouvez apporter une valeur ajoutée par rapport aux autres acteurs qui sont sur le marché, des investisseurs peuvent suivre. Donc, c'est certainement pas à la banque, mais c'est plutôt effectivement des investisseurs qui sont prêts à mettre des ressources pour que vous augmentiez la taille du business et donc le volume des équipements. Donc, c'est pas tellement le volume de business aujourd'hui. Bon, si vous réalisiez 150 000, 200 000 euros au bout d'un an et demi, c'est vrai que c'est plus facile de convaincre un investisseur parce que la preuve est faite que le business peut se développer très, 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 très vite. Là, je suppose, comme vous avez des moyens un peu limités, votre pénétration commerciale est d'autant plus faible, les équipes sont d'autant plus faibles, donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue.
Et donc, les investisseurs proposent juste un fonds d'amorçage, ce qui n'est pas suffisant.
Ce qui n'est pas suffisant.
Au stade où ils en sont.
Et évidemment, ils peuvent mourir à tout moment parce que le cycle d'activité ne permet pas de faire du volume, parce que c'est aussi une activité probablement de volume. Je ne connais pas vos coûts de revient. Mais en résumé, si vous pouviez trouver dans votre modèle économique le moyen de faire payer vos clients une partie par anticipation, c'est-à-dire lorsque le mois démarre, puisque c'est du leasing, ils payent en début de mois, en fin de mois généralement. Le cycle de paiement, comment vous l'avez structuré?
Alors, pour l'entreprise qui coûte 60 000 francs, ce qui est structuré, c'est que les clients payent déjà au départ, avant qu'on installe les produits, payent 10 000 francs.
Oui.
Et là, chaque fin de mois, il paye 10 000 pendant 6 mois.
D'accord. Et quand il paie à la fin de mois, il paie la consommation du mois suivant, en fait. Donc, si je paie le 30 mars, c'est que je paye pour le mois d'avril.
Donc, il paye déjà à l'avance.
Effectivement.
Quand même.
C'est ça.
Il paye en avance.
Très bien. Donc, en fait, si vous pouviez même grignoter 5 jours au lieu de payer le 30,
je
si vous les faites payer le 25 ou le 20, en réalité, c'est comment anticiper sur les revenus à venir pour convaincre d'abord, hein, bon, c'est pas la solution d'investissement, mais en gros, comment est-ce que vous anticipez sur les revenus à venir pour que le banquier déjà vous donne un peu de respiration parce qu'il sait chaque mois que vous, quand le 30 arrive, vous avez peut-être déjà encaissé 100 clients. Et quand le 30 arrive, si vous devez installer de nouveaux clients, le banquier peut vous avancer une partie de la trésorerie sur ce que vous avez déjà encaissé sur la consommation à venir. Donc, comment dans le modèle anticiper un peu vos encaissements pour, entre guillemets, allez, c'est pas de la titrisation des revenus futurs, parce que les revenus sont pas... Mais il n'empêche, quand vous avez des gens qui sont abonnés, qui sont en leasing, vous pouvez faire mais le montant est faible. Hein. C'est juste pour vous donner une idée. Vous pouvez titriser les revenus qui viennent. C'est-à-dire, quand vous avez quelqu'un qui a un abonnement ou qui est en leasing sur 6 mois, et qu'a priori, il présente des garanties de paiement sur les 6 mois, vous pouvez aller lever l'argent sur les 6 mois qu'il va payer. Donc, vous anticipez les revenus qu'il va payer, puisqu'il a un abonnement et qu'il doit payer tous les mois, sinon il va être coupé. Donc, ça, c'est une manière de faire, c'est-à-dire vous anticipez les revenus futurs pour lever un peu de dette. Deuxièmement, sur les investisseurs, il faut réellement arriver à trouver des avantages concurrentiels parce que même si le potentiel du marché est énorme, sauf que certains gros acteurs qui sont déjà sur le marché peuvent vous faire disparaître à tout moment parce qu'il suffit qu'eux, ils fassent la même chose et qu'ils enlèvent 2 ou 3 000 francs sur le kit à payer chaque mois.
Et ça fera la différence.
Et du coup, vous retrouvez tout de suite en situation difficile parce qu'eux, ils sont en plus en stratégie de volume. Donc, vous allez mourir assez rapidement. Donc, je voudrais voir un petit peu plus les avantages concurrentiels et les barrières que vous mettez à l'entrée vis-à-vis des gros prestataires, des gros acteurs sur le marché pour convaincre un investisseur que votre solution est viable et durable pour mettre 200-300 000 euros.
Est-ce que votre force, par exemple, c'est de miser sur des agents de proximité? Je sais que vous travaillez beaucoup avec le bouche à oreille et ces agents de proximité, ils touchent une commission. Hein. C'est un peu ça votre système?
Effectivement, là, on travaille avec des agents de proximité. Donc, dans chaque quartier ou dans chaque ville qu'on s'installe, on recrute quelqu'un de cette ville ou de ces quartiers-là, qu'ils maîtrisent très bien, en fait, les habitants de ces zones-là. Et du coup, à chaque installation, lui, quand même, il touche une commission. Et à chaque collecte des fonds également, donc il touche également une commission. Et il connaît à peu près ceux qui sont solvables dans le quartier et ceux qui ne sont pas. Donc, en gros, notre force, ça se réside, en fait, déjà pour le fait qu'on, nous, on va à la rencontre de ces clients-là, recherche dans des zones ciblées. Et on travaille avec des gens qui maîtrisent ces zones-là.
Ouais, évidemment, il y a une connaissance du marché local. Est-ce que c'est suffisant, Didier Acoté,
c'est géants bien, mais ce n'est pas suffisant. Et en réalité, vous savez, si vous avez un bon réseau de distribution, donc ces représentants ou ces VRP, peut-être que c'est là, du coup, votre force. Si vous n'avez pas intérêt spécialement à produire ou à importer ces kits, pourquoi vous ne signez pas une convention avec un gros acteur qui est déjà sur le marché et vous devenez le distributeur. C'est-à-dire votre force, c'est surtout de quadriller le territoire avec votre force de vente pour faciliter la pénétration du produit et non plus vous fatiguer dans la phase, dans la partie amont. Si vous n'avez pas d'avantage concurrentiel.
Il faut acheter des kits, etc.
Exactement. C'est-à-dire, vous pouvez faire une convention avec un gros acteur qui est déjà présent localement. Et votre force, c'est votre réseau de distribution parce qu'il va être obligé de passer par vous, y compris d'autres acteurs, pour distribuer le produit. C'est un peu ce que vous avez commencé. C'est que si vous prenez les acteurs de la téléphonie mobile, à un moment donné, c'est plus eux qui distribuent ou les rechargent. Mais le réseau de distribution sur le terrain qu'ils ont structuré permet d'être sur une chaîne du business sur lequel aujourd'hui vous pouvez vous situer peut-être pour aller un peu plus vite et ne pas vous épuiser en essayant de lever des fonds pour acheter le matériel alors qu'un partenaire peut vous les fournir. Et vous investissez beaucoup plus sur le marketing et le réseau de distribution.
Ali, il faut qu'on donne la parole à d'autres jeunes entrepreneurs, jeunes patrons de l'Afrique qui gagnent. Est-ce que ces conseils, ces questionnements qui vous obligent à revoir un peu aussi la façon dont vous pensez votre modèle économique vous ont aidé?
Effectivement, donc il y a des pistes de réflexion, on doit essayer de réfléchir, donc je pense que si les membres de l'équipe sont à l'écoute, on doit essayer donc de réfléchir par rapport à...
On la salue d'ailleurs toute l'équipe, 10 personnes déjà, l'objectif quand même...
C'est déjà très bien.
Ouais, c'est bien, et l'objectif de Courant Jabot, c'est électrifier 1 million de toits tchadiens d'ici 5 ans, et vous le disiez, il y a sûrement de la place pour pas mal d'opérateurs, vu les besoins qui sont immenses au Tchad. Merci beaucoup Ali d'avoir été... en ligne avec nous, vous continuez de nous appeler les voisins, les voisines 33 1 84 22 71 71. Dans quelques instants, on accueille une voisine à Dakar.
7 milliards de voisins.
7 milliards de voisins, c'est maintenant.
Avec le coach Didier Acoté.
Le coach est bien là, Didier Akouété à mes côtés. 7 milliards de voisins, on est en direct sur RFI. On donne la parole aux jeunes patrons de l'Afrique qui gagnent ou alors aux juniors qui seront demain les jeunes patrons. Oumou est en ligne avec nous de Dakar, bonjour.
Bonjour Emmanuel, bonjour Didier.
Bonjour Oumou.
Oumou, vous avez alors votre parcours, c'est un master en management international des PME. Vous avez étudié à Montpellier. Vous avez travaillé plusieurs années en tant que conseillère technique sur des questions d'entrepreneuriat, de secteur privé, d'incubateur, notamment universitaire. Exactement. Et puis vous avez été gagnée par le virus de la start-up. Vous avez créé avec votre mari Tutti Tutti. En avril 2018. Alors c'est très simple à comprendre. Le concept, c'est de la fabrication de compotes, des goûters pour enfants. Alors la compote, c'est pas un aliment transformé classique en Afrique. Hein. C'est-à-dire c'est du fruit mixé et cuit légèrement pour des enfants, pour voilà, c'est pour le goûter. C'est bien l'idée d'une maman du continent qu'on a marre d'acheter des compotes de pommes, ça, non, à mon avis.
Exactement.
Ah ouais, mais je vous comprends en même temps.
Voilà, le potentiel est là et il restait faiblement valorisé.
Oui, alors pour dire clairement, vos fruits sont délicieux, il n'y en a pas non plus en toute saison. Et du coup, comment est né ce concept? Qu'est-ce que vous vendez aujourd'hui?
Alors, merci, je suis très contente déjà d'être à l'antenne. Merci à Didier également pour ses conseils précieux.
Merci.
Et l'idée en fait m'est venue étant jeune maman. Donc, comme vous avez dit tout à l'heure, le constat était que à chaque fois, bon, quand j'achetais des goûters ou des desserts pour mes enfants, c'était forcément des produits importés. Et des fruits d'ailleurs qui ne poussent pas forcément ni au Sénégal ni en Afrique. Et moi, étant à l'époque agent de développement, donc j'ai parcouru pas mal de régions et je voyais souvent des fruits qui pourrissaient. Et ça m'a choquée, quoi. Je me suis dit, et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Pourquoi? Et directement, le lien a été fait, en fait, avec cette expérience que j'avais en tant que maman.
Et donc, vous commercialisez des compotes de quoi, alors, aujourd'hui, pour aller droit au but?
Droit au but. Donc actuellement, nous faisons des compotes avec des fruits locaux tels que le fruit du baobab, l'hibiscus, le bissap, le mad. Donc ça, c'est des produits un peu territoriaux, là, locaux. Également le ditar, donc qui est reconnu avec sa pulpe verte. Donc il y a énormément de produits, en fait, qu'on mangeait peut-être différemment en jus ou en sirop ou en confiture. Et aujourd'hui, qu'on peut déguster sous forme de compote.
C'est ça, et parfois avec des mélanges de fruits.
Exactement.
Alors, vous avez fait, où est-ce que vous en êtes? Vous avez fait une étude de marché, vous avez fait un business plan, vous venez de terminer le test consommateur, ça a bien marché, vous êtes contente?
Effectivement, oui, on est très motivés parce qu'on a eu d'excellents retours, et puis notamment des taux de réachat assez importants de la part de nos clients. Donc quasiment tous, et actuellement nous sommes même en train de développer un programme de fidélité parce qu'on s'est rendu compte qu'il y en a qui achètent systématiquement, soit toutes les semaines ou deux fois par mois, et on s'est dit que ce serait intéressant justement de les maintenir à travers ce programme de fidélité.
Oui, oui, parce que l'alimentation des enfants, c'est très régulier, très récurrent, hein, et les produits sont un peu toujours les mêmes toutes les semaines. Vous êtes en train de peaufiner les emballages. Je sais qu'il y a eu une phase initiale de financement, je crois qu'au départ, c'était quoi? C'était 25 millions de francs CFA, non? C'est ça?
C'est ça, c'est le besoin. C'est un besoin. Nous sommes partis avec un financement beaucoup moins important, de l'ordre de près de 5 millions CFA. Donc, c'était un peu mes économies. Et donc, ça nous a permis de financer le matériel de base pour démarrer, assurer la formation de techniciens de production, et notre formation à nous-mêmes, parce qu'à la base, je ne suis pas ingénieure agroalimentaire. Et voilà, c'est comme ça qu'on a démarré. Et aujourd'hui, nous avons donc des défis en termes de développement.
Alors justement, vos questions à Didier Akouété, parce que là, vous êtes un peu plus avancé que les phases test, mais vous êtes tout petit. C'est une entreprise qui est très artisanale. Quelles sont vos préoccupations et vos questions à Didier Akouété?
Alors, une des choses qui nous préoccupe un peu, c'est un peu l'aspect RH déjà. Didier en a parlé dans son introduction. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a énormément de talents en Afrique, mais c'est aussi des personnes qui coûtent cher. Et du coup, pour des petites entreprises qui démarrent avec pas forcément beaucoup de moyens, On doit faire des calculs assez stratégiques, donc comment avoir le bon profil, mais en n'ayant peut-être pas les moyens de grands groupes. Et du coup, se pose la question de la fidélisation, en fait.
Et l'autre question,
ça a trait au financement, donc comme le premier qui est passé. Aujourd'hui, nous avons pas mal de leviers de financement, particulièrement bancaires et certaines structures d'appui étatique qui ont été mises en place. Mais se pose toujours la question de l'adaptation, en fait. Parfois, on a des besoins financiers, mais les modalités qui sont proposées ne nous permettent pas forcément de bien assurer notre développement et de respecter les échéances et tout. Et du coup, moi, la question que j'ai par rapport à ce point, c'est est-ce qu'il y a des astuces, en fait, ou des leviers nouveaux qui peuvent être intéressants pour des startups comme la nôtre, en dehors du financement bancaire classique, en fait.
Voilà. Ouais. Bon, et en dehors des politiques publiques et des fonds publics qui sont mis à disposition maintenant au Sénégal, mais c'est vrai que, de toute façon, c'est toujours assez contraignant, et comme vous le disiez, ça ne répond pas forcément aux besoins des entreprises.
Exactement.
Alors, des réponses synthétiques, Didier Akouété.
Oui, l'aspect
RH, l'aspect financement.
Alors, l'aspect RH, c'est vrai que c'est toujours
humaines.
La problématique des petites entreprises. Je vois de plus en plus des solutions qu'il faudrait mettre en place entre les start-up, les PME et les business schools. Vous voyez ça, par exemple, on ne le fait pas assez. Je lisais encore un document récemment sur ce partenariat qui permet... Vous savez, dans les business schools, vous êtes à Dakar, je prends par exemple l'ISM qui forme relativement bien ces jeunes qui partent en stage ou qui ont accès à un premier job. Je pense qu'on peut mettre en place des partenariats entre des startups comme les vôtres et ces écoles pour que les meilleurs étudiants ou qui ont fait les meilleurs stages puissent avoir un premier job chez vous à la fin de leur cursus, avec vous l'obligation simplement d'avoir un mentor, un coach dans l'entreprise qui leur permet de grandir. Et ça, s'ils grandissent avec vous, il y a des chances qu'ils restent avec vous. Ça, c'est concernant les juniors.
Au moins quelques années.
C'est vrai.
Vous êtes optimiste. Sur la jeune génération, ils sont quand même un peu zappeurs. Mais bon.
Alors, comme il n'y a pas beaucoup d'emplois sur le marché, en fait, pour l'instant, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'offres sur le marché. Donc, ils ont plutôt intérêt à rester fidèles.
Ça permet aussi, ils ne sont pas trop gourmands en termes de salaire.
En fait, c'est ce que je veux dire. C'est qu'ils ont des exigences qui sont un peu faibles. Ils ont un avantage, c'est que vous les formez aussi à l'intérieur. Il vous apporte de la valeur ajoutée avec un mentor qui est auprès de vous, peut-être vous, votre mari, qui les coach. Ça, c'est la solution, guillemets, disons, un peu économique, mais où on parie sur l'avenir, avec donc un taux de fidélisation qui peut être élevé.
Sur le financement.
Deuxième solution, rapidement, c'est ce qu'on appelle des mid-career, donc des mid-professionnels, où vous êtes obligé d'avoir une partie qui est très motivée sur la partie variable, sur le volume de vente, mais à condition que votre business ait du volume. Or, aujourd'hui, vous êtes en petit volume, donc vous ne pouvez pas attirer des bons staffs que vous pouvez motiver par une partie variable en termes de rémunération. Donc, c'est à avoir, mais dans un second temps. Donc, je crois plutôt dans des équipes un peu jeunes à motiver, à encadrer, qui ont du potentiel, qui vont grandir avec vous. Sur la partie financement, c'est toujours un peu ça la question. Si vous voulez, quand on est en phase de lancement comme vous, il y a un minimum d'investissement à faire en infrastructure. Et vous l'avez fait, mais votre volume de production est trop faible. Donc, Si vous optez par exemple pour une solution de crédit bas et donc qui ne pèse pas sur votre trésorerie, donc vous avez un loyer que vous payez sur le matériel, c'est un mode de financement de votre investissement, donc des équipements. Sur la partie trésorerie pure, vous allez voir, plus vous allez grandir, plus vous aurez des soucis. Donc comment arriver à convaincre un banquier si vous arrivez à sécuriser par exemple un volume de commandes avec, on parlait par exemple du groupe Total qui aujourd'hui dans ses supermarchés a des points de vente avec une partie réservée aux produits locaux. Imaginez que vous arrivez à sécuriser un contrat avec ce groupe pour que vous distribuiez votre produit sur l'ensemble de cette station. Non seulement il pourrait garantir une partie de l'investissement auprès de la banque que vous allez faire, mais vous avez un volume de vente à venir
garanti
qui rassure le banquier,
par le distributeur,
qui lui permet de vous accompagner. Et puis, les fonds pour les femmes, aujourd'hui, on a de plus en plus les femmes entrepreneurs. taper aussi dans ces financements qui généralement sont des garanties qu'on vous apporte sur le financement que vous allez lever auprès de la banque ou alors sous forme de grant. Et je sais que la BAT, par exemple, actuellement en train de mettre en place un énorme fonds pour dérisquer les financements.
Et il y a un financement sénégalais aussi pour les femmes et les jeunes. Ce qui est sûr, c'est que c'est urgent.
Ça, ça permet d'avoir un petit ticket.
Pour vous, Oumou, les 30 000 euros en gros hein, dont vous avez besoin, c'est pour renforcer les équipements de production et puis aussi pour acquérir de nouveaux emballages qui vont aussi vous permettre d'être mieux distribués chez des distributeurs, des supermarchés, etc., plus qualitatifs aussi. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, finalement.
Absolument.
Oumou, on vous souhaite bonne chance. En tout cas, vous êtes seul sur le marché à l'heure actuelle. Compote avec des fruits locaux transformés en compote pour les bébés, les petits-enfants, le 4 heures, la sortie d'école. Voilà, un produit qui n'existe pas pour le moment au Sénégal.
Elle a un boulevard. Vous savez, que ce soit les écoles maternelles, si elle peut signer des conventions, livrer les écoles maternelles, etc. Donc, il y a un boulevard qu'il faut structurer différemment pour avoir un potentiel de marché et qui permettra de sécuriser l'investissement auprès des financiers.
Vous gardez la pêche, Oumou, c'est le cas de le dire, ou plutôt le baobab. Très très bonne journée à vous, Oumou. Envoyez-moi de la poudre de baobab, moi j'adore ça, j'en prends tous les matins au petit déjeuner, avec de la banane écrasée, c'est délicieux.
Pour ça que vous restez aussi jeune, Emmanuel.
33 1 84 22 71 71. Vous continuez de nous téléphoner, on donne la parole maintenant à un geek malgache qui fait du jeu vidéo à Madagascar, mais pas que Madagascar.
7 milliards de voisins.
T'as un projet, t'as un business plan, alors viens en parler au coach.
JPAG, jeune patron de l'Afrique qui gagne.
Vraiment, l'Afrique regorge de talent.
Il est en train de s'entraîner avec son punching ball, Didier Akouété, jeune patron de l'Afrique qui gagne. Et nous accueillons un nouveau voisin, Mathieu, entrepreneur, 29 ans, à Antananarivo, à Madagascar. Bonjour Mathieu, soyez le bienvenu.
Bonjour à tous, merci de m'accueillir.
Mathieu,
bonjour Mathieu.
Vous avez une formation de webmaster à Madagascar, à l'université d'Antananarivo, et vous avez créé avec toute une équipe, hein, maintenant à peu près 16 personnes, que des geeks, que des passionnés, que des innovateurs, mais en même temps, vous êtes tous très autodidactes en jeux vidéo, parce qu'il n'y a pas de formation en tant que telle à Madagascar. Vous avez créé Lomé en 2016, qui est une entreprise de développement de jeux vidéo. Et notamment un jeu qui commence à être un peu connu, qui s'appelle Gascar, qui est un serious game. Vous pouvez nous dire en quelques mots ce que c'est qu'un serious game? Et après, surtout, vous allez bien nous expliquer en quoi consiste ce jeu et quelle est sa spécificité.
Serious game, c'est un jeu qui, à part le côté ludique, il promouvoit aussi d'autres domaines, comme le côté éducatif et côté communication informatif. Et c'est ce qu'on a fait avec Gascar. On a essayé de... C'est pas qu'on a essayé, mais on a promu l'e-tourisme, c'est-à-dire tourisme virtuel.
Mmh. Donc c'est l'occasion de découvrir Madagascar avec ce jeu, alors qui est quand même... C'est très, très basé sur la voiture, hein, si j'ai bien compris.
Voilà, c'est un jeu de course qui fait parcourir toute la capitale de Madagascar. On a modélisé en 3D chaque quartier de la ville d'Antananarivo.
Ouais.
Donc l'utilisateur, ils peuvent directement avoir une sorte de visite virtuelle.
Ouais.
Lorsqu'il joue à des courses, il peut jouer avec ses amis un peu partout dans le monde. Grâce à Internet.
Ouais, vous connaissez Antananarivo, hein, Didier. Ça ne doit pas être triste, la course à Antananarivo.
Dans les rues.
Oui, c'est en plus la taille des ruelles. Ça monte, ça descend.
Et puis j'ai surtout des enfants qui jouent aussi en ligne avec d'autres enfants du monde. Et c'est génial.
Ouais, ouais. Voilà. Alors, c'est un jeu qui est gratuit sur téléphone mobile. Comment vous gagnez de l'argent?
C'est un jeu qui est gratuit en téléchargement, mais on a deux sortes de clients vis-à-vis du projet. Premier client, ce sont des grosses entreprises. Parce qu'on savait très bien qu'en Afrique, il n'y a pas beaucoup de pouvoir d'achat sur les produits numériques. Et nous, on s'est tourné sur les grandes entreprises. Ils investissent de la visibilité dans le jeu. On insère des logos, par exemple, des grosses entreprises. Mmh. On peut labelliser chaque voiture avec des visuels d'entreprise. Dans chaque circuit, il y a des panneaux publicitaires avec des logos d'entreprise.
Mmh.
Ça, d'une part. Et d'autre part aussi, il y a les utilisateurs. Ils téléchargent le jeu gratuitement, mais ils peuvent aussi acheter des contenus téléchargeables qui sont en ligne.
Mmh.
Soit ce sont des kits de véhicules, des pneus, des carrosseries. des logos aussi. Oui. Et grâce à ça aussi, les utilisateurs, ils participent aussi au financement du projet.
Oui, d'accord. Mais évidemment, pour des petites sommes, ce qui fait pour l'instant le gros de votre business, ce sont vos annonceurs, vos clients entreprises sur ce jeu. Donc, je le disais, vous êtes une équipe de 16 personnes, tous autodidactes. Il y a 3 programmeurs, des infographistes, un monteur vidéo. Ça coûte très cher de faire du jeu vidéo, donc c'est essentiel pour l'instant, d'élargir votre portefeuille de clients. Pour le moment, vous avez Orange Madagascar comme client, vous avez une marque de boissons énergisantes, vous avez un concessionnaire automobile, c'est déjà pas mal, hein,
oui,
pour un jeu 100% Madagascar, oui. Hein, Didier, à côté. Quelles sont vos questions au coach ?
Mes questions, c'est dans un domaine qui est très concurrentiel, le secteur du jeu vidéo, ça on le sait très bien, quelle valeur pourrait-on mettre en avant chez Lumay face aux concurrences pour se démarquer sur le marché et avoir plus de clientèle.
Sachant que vous pouvez justifier de 100 000 utilisateurs sur les téléphones mobiles de votre jeu.
Non, ce qui est pas mal. Ouais. Non, effectivement, c'est surtout l'innovation. Si vous voulez, c'est vraiment l'innovation, de mon point de vue, la clé de succès dans ce secteur. Arriver à faire jouer des gens qui ne se connaissent pas une fois connectés à l'autre bout du monde, ça c'était l'innovation. Et je le vois pour les jeux FIFA, vous savez, où les joueurs changent quand ils sont blessés en temps réel, quand on download le jeu, il est blessé aussi dans le jeu. Donc ça c'est, je trouve, ce qui est excitant quand je vois ceux qui jouent aux jeux vidéo. Donc c'est la capacité à innover, à être extrêmement réactif et à coller aux différentes réalités du moment. Donc ça, c'est très important, la recherche et développement, ce que vous n'avez peut-être pas l'occasion d'avoir aujourd'hui. Deuxièmement, il me semble que vous avez réussi à travers ce jeu aussi à faire ce qu'on appelle le glocal, c'est-à-dire un jeu vidéo qui correspond aux normes, donc aux normes globales, mais en même temps, vous les avez localisés en présentant un environnement dans lequel peut-être vos utilisateurs se retrouvent. Donc, cette capacité aussi à contextualiser le jeu, parce que vous connaissez l'environnement, est aussi peut-être un point fort qu'il faut creuser encore un petit peu plus. Donc, l'innovation pour moi, essentielle, et votre capacité à restituer une réalité locale dans laquelle vos joueurs se retrouvent, est aussi une force. Maintenant, puisque c'est quand même
donc
un jeu international...
Plus c'est africain, plus c'est malgache, plus c'est bon.
Alors, si ces consommateurs sont locaux, parce que vous pouvez, dans le jeu, entre guillemets, au bout d'une phase, aller dans une ville, aller tourner à New York ou aller tourner à Singapour et revenir... ça, c'est la magie du jeu vidéo. Mais j'ai l'impression que vos consommateurs que vous avez réussi à fidéliser se retrouvent dans la réalité de leur environnement et ça, c'est probablement une force.
Alors, en même temps, Mathieu, si j'ai bien compris, la prochaine version là, que vous allez commercialiser, vous ne voulez pas vous limiter à Madagascar. Vous voulez ouvrir un peu le terrain de jeu avec des clients sur le reste du continent africain.
Oui, on a reçu quelques propositions qui sont en étude actuellement d'éventuelles insertions d'autres pays en dehors de Madagascar. Et on trouve que ce sera une bonne ouverture pour vraiment élargir l'horizon du projet et pour qu'on puisse grandir un peu plus.
Oui, non, mais effectivement, si vous devenez le premier jeu vidéo de course automobile dans les capitales africaines, là, vous vous démarquez, c'est une vraie valeur ajoutée. Vous n'aurez peut-être pas les moyens de faire le développement, mais si vous trouvez des équipes un peu identiques à la vôtre dans d'autres pays qui sont... Enfin, si vous leur donnez le savoir-faire, je pense que beaucoup l'ont, mais vous arrivez à créer un réseau de développeurs et de partenaires dans différents pays... Imaginez, celui qui arrive sur cette plateforme et peut faire ce rallye dans les rues d'Abidjan, dans les rues de Nairobi, dans les rues de Johannesburg, dans
sur
les rues de Casablanca.
L'Afrique est la plus forte urbanisation au monde, avec une urbanisation qui est d'ailleurs en partie parfois anarchique, mais ça crée quand même un paysage, un contexte local qui est super excitant pour du jeu vidéo.
Oui, et puis ce que je trouve génial chez eux, c'est de pouvoir aller découvrir des provinces. Généralement, on se limite aux capitales et aux centres-villes, mais les villes secondaires... pouvoir faire le même jeu au Kenya, vous commencez à Nairobi, puis vous retrouvez dans le Maasai Mara en train de rouler en regardant les gazelles des éléphants. Alors, ensuite, vous allez sur les bords de l'océan Indien. C'est vrai, il y a une vraie valeur ajoutée que vous apportez par rapport au contexte local que beaucoup de jeux n'ont pas aujourd'hui. Et ce que vous dites est tellement vrai, plus vous arrivez à développer, à innover et à faire partir les joueurs dans des villes africaines, dans des régions non découvertes en Afrique, vous pourrez du coup associer effectivement des entreprises de tourisme, des hôteliers, etc. Donc vous commencez effectivement, comme vous l'avez fait, à élargir votre spectre d'annonceurs potentiels et de partenaires potentiels en déclinant le jeu sous la forme touristique, vous l'avez dit.
Vous avez contacté des grands groupes hôteliers, par exemple, Mathieu ?
Localement, oui. Mais c'était encore...
Vous m'avez dit au téléphone quand on a discuté avant l'émission, vous avez encore un problème de crédibilité, en fait, parce que vous êtes tous jeunes. C'est quelque chose sur lequel vous avez besoin d'un éclairage de Didier Acouetté là-dessus, sur l'expérience ?
Voilà. En fait, on sait très bien qu'à Madagascar et dans les pays d'Afrique, il n'y a pas de formation spécialisée dans le secteur du jeu vidéo. Donc, on a quand même du mal actuellement à faire approcher nos clients, leur proposer des produits où il n'y a pas de formation. Donc, est-ce que c'est pénalisant, en fait, pour l'UMEI? Est-ce qu'il y a des normes d'expérience que les clients voudraient avoir lorsqu'on va démarcher le produit?
Alors, vous savez, comme on dit, vous pouvez être jeune, mais très talentueux. Et apparemment, c'est le cas. Si vous êtes en phase développement, c'est vrai, à un moment donné, c'est bien d'avoir un ou deux seniors qui pourraient, entre guillemets, servir de mentor et rassurer vos partenaires et les investisseurs. Ça veut dire que si vous avez quelqu'un qui est dans l'industrie, qui a un profil très technique, qui est reconnu comme tel, qui vient comme parrain dans votre projet, c'est génial, ça renforce encore la crédibilité, vous ouvre des nouveaux horizons. Si vous avez quelqu'un qui a déjà fait la levée de fonds pour des start-up dans l'industrie tech, qui accepte de devenir parrain de votre projet, ça crédibilise encore ce que vous avez fait, parce que vous avez fait le plus dur. Donc si vous pouvez faire une sorte de comité stratégique avec 3-4 seniors, un financier, un techno, quelqu'un qui est dans le développement commercial, vous savez, vous prenez quelqu'un qui est à Nairobi, un autre qui est à Singapour, qui sont dans l'industrie, ça ne peut que renforcer la crédibilité du projet, vous ouvrir des nouveaux horizons, avec surtout un nouveau potentiel développement. Parce que beaucoup de projets meurent parce qu'ils restent trop localisés et ils n'ont pas cette ouverture qui leur permet d'aller chercher des leviers de croissance, des leviers de développement. Donc, faites une sorte de advisory board ou de strategy board.
Vos objectifs, Mathieu, de toute façon, ils sont assez ambitieux à 2 ans. Là, comment vous vous projetez avec l'équipe ?
Nous sommes actuellement en train de concevoir une nouvelle version de Gascar. Et cette fois-ci, on va inclure d'autres pays. D'ici 2 ans, on compte devenir le référence des studios de développement développeurs de jeux vidéo ici à Madagascar et peut-être aussi bien en Afrique.
Ouais. Et vous regardez, entre autres, d'ailleurs, vers Singapour aussi.
Oui.
Vous y croyez, Didier ?
Oui, si, non, mais c'est un univers qui est en plein développement. Où il y a un vrai potentiel si on arrive à innover, à proposer des produits différents. Et la preuve, c'est que ça fonctionne. Mais il faut trouver le moyen, comme il dit, de scale up, donc d'accélérer rapidement la croissance avec des partenaires qui arrivent, des nouveaux investisseurs qui vont rentrer.
Et des alliances. Le fameux passage à l'échelle après l'euphorie des 2 premières années,
on va dire. Succès, exactement.
Allez, bon courage en tout cas et bonne chance, Mathieu. Vous avez du talent, vous avez 29 ans et vous êtes à Antananarivo. Merci d'avoir été en ligne avec nous.
Merci beaucoup Didier.
Merci, à bientôt
bonne
Mathieu.
Bonne journée à vous.
Nous envoyer le lien pour jouer aussi, Mathieu.
Ah, mais attendez, je vais le redonner. C'est gascar.mg, c'est ça ? Gascar, ça s'écrit G-A-Z-K-A-R. Il y a un petit jeu de mots, expliquez-nous avant de nous quitter, Mathieu, le petit jeu de mots sur le nom du jeu.
En fait, Madagascar, pour les malgaches, on appelle aussi Gascar. Et c'est pour ça qu'on a pris, puisque le jeu, en fait, l'objectif, c'était aussi de promouvoir Madagascar d'un côté, on l'a appelé Gascar. Voilà le jeu de mots.
Et il y a car aussi.
Exactement.
Car.
Et il y a gaz. Donc ça va gazer dans le jeu et ça va faire rouler les voitures. Merci à vous, Mathieu. Ali, avec son kit énergie solaire au Tchad. Oumou, avec ses compotes pour le goûter des enfants 100% fruits du Sénégal. Et Mathieu, avec ce jeu vidéo 100% africain qui devrait s'élargir. Quels sont les projets qui vous ont intéressé aujourd'hui, Didier?
Alors, tous les projets sont intéressants. Si vous voulez, on aurait besoin de encore plus de temps pour rentrer un petit peu plus dans l'analyse. Et vous voyez bien que la phase de création du projet, ils l'ont passé. Donc, première phase test, en guillemets, réussie. C'est ce qu'on appelle la phase un peu où l'entrepreneur est en train de tester son concept. Mais non, comment on passe de cette phase à la phase de développement et après de maturité, c'est vraiment toute cette phase-là qui manque. Et quand on fait l'analyse stratégique, ce que je disais par exemple pour notre ami Ali...
au Tchad, pour les kits solaires.
Au Tchad, le kit solaire. Imaginons qu'il décide de faire un kit, bon, il le fait pour les petits commerçants, mais aussi pour le garagiste, admettons Yves qui a son garage.
Il cible aussi les étudiants, bien sûr, qui ont besoin de travailler le soir.
Exactement, Timothée qui révise devant la rue, etc. Bref, comment, à un moment donné, se dit, je n'ai peut-être pas les moyens de fournir à tous ces clients potentiels parce que je n'ai pas suffisamment de ressources pour financer l'investissement. Donc, quand je regarde le cycle de mon projet, peut-être qu'il vaut mieux que je me situe un peu plus en aval, c'est-à-dire que je distribue plutôt quelqu'un qui fabrique ses produits, qui a la matière, mais qui n'a pas un réseau de distribution. Donc, à quel maillon de la chaîne je veux bien me situer pour aller plus vite?
Didier, j'ai une dernière question à vous poser avant qu'on se quitte, parce qu'on a beaucoup de voisins et de voisines qui nous écoutent, en particulier quand vous passez, qui sortent des écoles de commerce, etc., qui disent « mais moi, j'ai un projet, j'ai une très bonne idée, mais je ne sais pas par où commencer ». Et ça, c'est le problème des plus jeunes aussi. Alors, est-ce que vous avez envie de leur dire « débrouille-toi tout seul sur Internet », qu'est-ce qu'on peut dire à ces jeunes-là?
Alors, c'est pour ça que je tiens toujours au business plan. De faire un business plan oblige à structurer le projet. Et ça, il y en a plein sur Internet. Comment on démarre un projet? Vous allez voir que lorsque vous commencez à rédiger votre plan d'affaires, vous commencez à voir les failles de votre projet, les avantages de votre projet et les limites de vos ressources, qu'elles soient humaines, techniques ou financières. Donc, quand vous avez ce document, d'abord, vous y voyez plus clair au niveau du projet. Et ensuite, quand vous faites la cartographie des opportunités, des risques, etc., là, vous allez chercher les partenaires qu'il faut pour vous aider à démarrer le projet. Mais vous pouvez démarrer quand vous avez fait business plan. Mais très rapidement, on voit que on est très limité parce qu'on a fait le produit, mais on ne sait plus à qui le vendre, on ne sait plus comment le vendre, on est limité. Donc, le point de départ, faites un petit plan d'affaires pour faire ce qu'on appelle le SWOT analysis, vos forces, vos faiblesses, les opportunités, les menaces, pour bien cartographier votre projet. Et à partir de là, vous allez voir quelle est la première phase qu'il faut passer, la deuxième phase, la troisième phase, et vous allez chercher des partenaires. Le problème de l'entrepreneur ou du start-upper, c'est qu'il démarre seul, parce qu'il est seul. Or, généralement, dans un projet, c'est dur d'être seul. Donc, dans cette cartographie, on va chercher des alliés, des partenaires, des fournisseurs.
D'ailleurs, tous nos jeunes entrepreneurs, là, étaient quand même à plusieurs, en général. Didier Acouetté, c'est le mot de la fin. Il faut se séparer. Vous revenez le mois prochain?
Évidemment,
merci
Emmanuel.
À vous, en tout cas, et merci à toute l'équipe. Didier Delphine de Dianous, qui a préparé cette émission, Sigrid Azeroual, Romain Dubrac. Bien sûr, vous nous réécoutez sur l'appli RFI Pure Radio à la rubrique émission. Et on se retrouve demain, quant à nous, vendredi, 25 ans après le génocide au Rwanda. Charles Abonimana raconte le massacre de sa famille quand il avait 12 ans et surtout ses dialogues avec la jeunesse rwandaise d'aujourd'hui et sur son devoir de mémoire.